Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, méditons ensemble sur le verset 261 de la Sainte Sourate Al-Baqara. Notre frère Borumand vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset prône la largesse qui est bien récompensée par Dieu.
بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم.
Il est de ceux qui font largesse de leurs biens dans le sentier de Dieu, comme d'un grain d'où naissent sept épis à cent grains l'épi, car Dieu multiplie en faveur de qui il veut. Dieu est immense, il sait.
Thank you. Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en ce dimanche 12 février 2023. Nous allons vous présenter tout de suite le journal, suivi d'un commentaire politique. Les bras de la nation iranienne sont ouverts aux trompés et aux repentis, déclaration du président Ebrahim Raisi. Vous aurez ensuite la seconde partie d'émission. Merci d'être avec nous. Au sommaire de ce journal, le président Ebrahim Raisi attendu à Pékin. Le chef de la diplomatie iranienne, Hossein Amir Abdollahian, réagit à la résolution anti-iranienne du Congrès américain à l'appui des terroristes de l'OMK. Et puis, nouvelle manifestation anti-Netanyahou en Israël. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Le président de la République islamique d'Iran se rend en Chine pour une visite officielle de 3 jours. L'Ayatollah Raisi sera le premier invité du président Xi Jinping dans la nouvelle année chinoise. Suivant la diplomatie active et diversifiée du 13e gouvernement, le président de la République islamique d'Iran se rend en Chine le 13 février. Lors de cette visite qui se fait à l'invitation du président chinois, l'Ayatollah Raisi rencontrera d'abord à huis clos Xi Jinping et ensuite les délégations irano-chinoises auront une réunion conjointe en présence de 2 présidents en vue de signer les accords de coopération bilatérale entre Téhéran et Pékin. Le président Raisi aura également une réunion avec les commerçants iraniens actifs en Chine et aussi avec les investisseurs chinois qui s'intéressent au marché iranien. Les élites et les intellectuels chinois seront également reçus par Ebrahim Raisi lors de cette visite officielle de 3 jours. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a déclaré qu'une résolution du Congrès américain récemment présentée, qui soutient l'organisation terroriste Mujahideen Khalq, OMK, a une fois de plus révélé l'appétit insatiable de Washington pour l'emploi du terrorisme dans le but de détruire l'Iran. Dans un post sur son compte Twitter, samedi, Amir Abdollahian a déclaré que la résolution sans valeur en faveur du culte terroriste anti-Iran OMK indiquait le plan américain de promouvoir le terrorisme version Daesh dans le but de détruire l'Iran. Le ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran, Hossein Amir Abdollahian, a eu une conversation téléphonique ce samedi avec son homologue irakien Fouad Hussein. Lors d'une conversation téléphonique entre le ministre irakien des Affaires étrangères et son homologue iranien, Hossein Amir Abdollahian, les dernières évolutions liées aux relations bilatérales ont été discutées. Les 2 parties se sont également consultées sur les étapes liées à l'accord pour désamorcer les sanctions. Le ministre irakien des Affaires étrangères a invité Hossein Amir Abdollahian à se rendre à Bagdad. Évoquant les pourparlers sur la levée des sanctions et la relance de l'accord nucléaire de 2015, le vice-ministre iranien des Affaires étrangères et principal négociateur Ali Boeri a déclaré « Les négociations sont toujours en cours dans le cadre de l'échange de messages entre les deux parties ». Le négociateur nucléaire en chef de l'Iran a déclaré au cours d'une interview accordée à la chaîne libanaise Al-Manar « Au cours de l'année dernière, la vitesse des pourparlers a connu des hauts et des bas, mais nous avons toujours une continuité dans les négociations. » Le dialogue se poursuit toujours dans le cadre de l'échange de messages entre les deux parties et les parties échangent leurs points de vue continuellement, a-t-il dit. Concernant le rôle de médiation du Qatar dans l'échange de messages entre l'Iran et les pays occidentaux, en particulier les États-Unis, Boeri a déclaré « Nous n'avons pas de relation directe avec les États-Unis et il est naturel que l'échange de messages entre nous et les Américains prenne lieu par l'intermédiaire d'un tiers, qui est parfois un pays européen, parfois non européen. » Le numéro 2 de la diplomatie iranienne a estimé que la signature de l'accord dépendait de la volonté des deux parties et a ajouté « L'Iran n'a aucun obstacle à finaliser l'accord multilatéral sur le nucléaire iranien de 2015 si ses lignes rouges et ses intérêts sont respectés. » Suite au récent tremblement de terre, la représentation iranienne aux Nations Unies a exhorté la levée immédiate et complète des mesures coercitives unilatérales pour fournir une aide humanitaire au peuple syrien. Faisant référence au communiqué de solidarité avec la Syrie dans le récent séisme, la représentation iranienne aux Nations Unies a souligné qu'en solidarité avec la Syrie, suite au récent tremblement de terre, ce communiqué appelle au retrait immédiat, complet et inconditionnel des mesures coercitives, unilatérales, illégales, afin de faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire indispensable vers ce pays. Sachez également que le commandant de la force Quds, force extérieure du corps des gardiens de la révolution islamique, s'est rendu sur les ondes touchées par le tremblement de terre dans le nord-ouest de la Syrie depuis mercredi pour superviser en personne et de près les secours au peuple syrien et le processus des opérations de secours des forces du front de la résistance islamique qui ont été dépêchées dans la région depuis l'Iran, l'Irak et le Liban. Enfin, pour la sixième semaine consécutive, des dizaines de milliers de manifestants sont descendus dans les rues de Tel Aviv en guise de protestation contre la politique du cabinet extrémiste du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Les manifestants ont qualifié Netanyahou de dictateur. Les critiques affirment que les mesures introduites par le nouveau gouvernement radical affaibliraient la Cour suprême, limiteraient le contrôle judiciaire et accorderaient plus de pouvoir aux politiciens. Pour eux, les plans de réforme judiciaire proposés par son cabinet, qualifiés de fascistes, sont une pure mesure contre la démocratie. Les réformes renforceraient également le contrôle politique sur les nominations judiciaires et limiteraient les pouvoirs de la Cour suprême d'annuler les décisions du cabinet ou les lois de la Knesset. La coalition a également l'intention d'intensifier la politique expansionniste avec plus d'unités de peuplement illégal en Cisjordanie occupée. Tout au long des rassemblements, les manifestants ont qualifié Netanyahou de ministre du crime, une référence à son inculpation pour avoir reçu des pots de vin, fraude et abus de confiance au crépuscule de son précédent mandat de Premier ministre en 2019. Ils ont également dénoncé les réformes judiciaires prévues comme un moyen pour lui de contourner les répercussions de son scandale de corruption. Fin de ce journal. Merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique reste avec nous. Merci. Les bras de la nation iranienne sont ouverts aux trompés et aux repentis, déclaration du président Raisi. la vision paternaliste du leader de la République islamique d'Iran reste une priorité au sein du gouvernement, affirme le président de la République islamique d'Iran, Sayed Ebrahim Raisi, avant de souligner « Nous revendiquons les droits des femmes ». Il a tenu ses déclarations lors d'un discours tenu à l'occasion du 44e anniversaire de la victoire de la Révolution islamique d'Iran. Le président iranien, s'attardant sur le fait que la vision paternelle du leader de la révolution islamique, le guide suprême, l'ayatollah Khamenei, est suivi dans les organes exécutifs de la République islamique d'Iran, a déclaré « Le gouvernement ouvre ses bras avec une vue généreuse pour accepter les trompés et les repentis suite aux récentes émeutes touchant le pays et s'engage à agir et à réagir sur cette direction ». Lors de son discours, devant la foule ayant participé à la marche, le président Raisi a décrit le jour de la victoire de la révolution islamique comme le jour du début de l'indépendance, de la fin de la tyrannie et de la cristallisation de la volonté du grand peuple iranien. Aujourd'hui, le peuple est descendu dans la rue pour renouveler son allégeance à l'imam, au leader de la République islamique d'Iran, aux martyrs et aux principes de la révolution, a-t-il réaffirmé. L'ayatollah Ebrahim Raisi, s'exprimant à l'occasion d'un discours ce samedi 11 février sur place emblématique Azadi, Liberté en français, de Téhéran, au cours d'un grand rassemblement organisé à l'occasion de la marche grandiose en Iran, marquant l'anniversaire de la victoire de la révolution islamique, a déclaré « Cette présence épique est un message d'espoir pour la nation iranienne et un message de désespoir pour les ennemis de la révolution islamique. » Se référant aux récents incidents liés aux émeutes soutenues par l'étranger et aux tentatives de déstabiliser le pays et semer la zizanie, il s'est adressé au peuple et a déclaré « Ceux qui ont été trompés par l'ennemi dans ces émeutes doivent savoir que les bras de la nation sont ouverts pour les accepter. Grâce à la direction paternelle et sage du leader de la révolution islamique, avec la grâce collective qu'il a annoncée, nous assistons aujourd'hui aux bras ouverts de la nation. » Et nous, au sein du gouvernement, nous suivrons la même vision paternelle que le guide suprême a demandé à l'adresse du gouvernement et aux établissements administratifs. Le président a souligné « Nos bras sont ouverts à tous ceux qui ont été trompés et repentis parce qu'ils ont saisi que l'ennemi avait la malice de déstabiliser le pays pour ses intérêts ». Le président Raisi a souligné que le peuple a saisi que la question n'était pas pour l'ennemi ni la femme, ni la liberté, ni la vie et ni les droits de l'homme. Il a ajouté « L'ennemi cherche à prendre l'indépendance de la nation iranienne, à priver la nation iranienne de sa liberté et de sa vie. Notre nation l'a bien saisi. Notre nation sait très bien qu'ils n'ont donné la vie à personne où ils sont intervenus et qu'ils n'en nous donneront pas non plus. » Toujours à l'adresse de l'Occident, il a dit « En ce qui concerne les droits des femmes, nous sommes dans la position du requérant et vous êtes dans la position de l'accusé. Aujourd'hui, grâce à la révolution islamique, nos femmes sont libres et ont une forte présence dans les milieux politiques, sociaux, culturels et scientifiques. » Nous ne nous sommes pas réunis aujourd'hui uniquement pour commémorer l'anniversaire de la Révolution, mais pour dire que nous avons de nouveau vaincu le plan de l'ennemi. Le président a souligné que le peuple iranien avait enregistré une grande bataille aujourd'hui et qu'il avait contrecarré les plans des ennemis. Le peuple iranien poursuit la voie du progrès et de la prospérité malgré les conspirations des ennemis. Il a affirmé qu'il était étrange que le Congrès américain ait retiré des groupes terroristes de sa liste noire et que cette affaire est une honte pour les États-Unis. La fermeté du peuple iranien a vaincu les pressions extrêmes des ennemis, comme l'Occident l'a reconnu. L'Iran islamique, malgré les menaces et les sanctions, bénéficie d'investissements importants et stables. Et nos capacités ont augmenté dans tous les domaines, s'est-il félicité. Avant d'ajouter, l'Occident voulait, à travers le projet des émeutes, attiser la sédition dans notre pays. Et ils ont mené une guerre hybride à différents niveaux. La voix de millions de nos concitoyens aujourd'hui est la réplique la plus éloquente au complot des ennemis, a-t-il renchéri. Il s'est aussi exprimé sur la création du groupe terroriste Daesh. L'Occident est celui qui a établi, financé et armé Daesh pour tuer des hommes innocents, mais nos forces dirigées par Haj Qasem Soleimani ont éliminé ce groupe terroriste dans la région. Nous sommes fiers de respecter les droits de l'homme, alors que l'Occident les a bafoués. Et un exemple en est les violations contre les peuples palestiniens, yéménites et afghans, a-t-il dénoncé. Notre peuple est encore fidèle aux idéaux de la révolution et ses ennemis veulent encore semer le désespoir. Mais ils ont reçu un nouveau message aujourd'hui, un message d'espoir, a déclaré le président Raïsi. Rappelons qu'en hiver de 1979, le peuple iranien a renversé le régime despotique de Pahlavi, soutenu par les États-Unis.
Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition du débat. 11 février, aujourd'hui, les Iraniens étaient en masse dans les rues à travers tout le pays afin de célébrer le 44e anniversaire de la révolution islamique et d'Iran. Malgré toutes les pressions, les sanctions de part et d'autre, les Iraniens sont là, plus unis que jamais. Nous allons évoquer ce sujet dans ce débat avec nos deux invités. Mais avant de vous les présenter, je vous propose de regarder un reportage préparé par mes collègues à ce sujet. On revient tout de suite après.
Le président iranien Ebrahim Raïsi a déclaré que les États-Unis et les trois signataires européens de l'accord sur le nucléaire de 2015 avaient commis de graves erreurs de calcul en provoquant les récentes émeutes en Iran, soulignant que leur tentative en cours pour ternir l'image de la République islamique était toute vouée à l'échec. Le président Raïsi a fait ses remarques lors d'une réunion jeudi 9 février avec un groupe d'ambassadeurs étrangers en République islamique à l'occasion du 44e anniversaire de la victoire de la révolution islamique. Il a affirmé que l'Iran, malgré le non-respect par les parties occidentales de leurs engagements dans le cadre du plan d'action globale conjoint PGAC, s'est toujours déclaré prêt à finaliser les négociations de Vienne pour parvenir à un accord bon et équitable sur la relance de l'accord de 2015 et la levée des sanctions. Le président iranien a en outre affirmé au cours des derniers mois: nous avons assisté à une nouvelle vague de complots étrangers hybrides et d'ingérence de certains pays occidentaux en Iran. Via les sanctions et une campagne de désinformation, ces pays ont mené une guerre psychologique hybride. Lors de récents troubles, a-t-il indiqué, certains ont tenté de ternir l'image de l'Iran par des informations complètement trompeuses. De telles tentatives sont toujours en cours, mais sont toutes vouées à une défaite ignominieuse. Les puissances arrogantes n'ont reculé devant aucun complot diabolique contre l'établissement islamique iranien depuis que la révolution islamique est sortie victorieuse en 1979. Elles ont soutenu le dictateur irakien déchu Saddam Hussein pendant la guerre de 1980-1988 imposée par l'Irak à l'Iran et nous ont imposé plusieurs séries de sanctions, a-t-il poursuivi. Il a noté une amélioration du statut des femmes iraniennes et de leur participation dans différents domaines, citant des statistiques qui montre une avancée significative du rôle des femmes dans la société. Nous sommes prêts à avoir des discussions avec différents pays sur les droits de l'homme. Or, les soi-disant défenseurs des droits de l'homme en Occident doivent être tenus responsables de leur bilan catastrophique. Le double standard et les approches discriminatoires ne parviendront pas à améliorer le statut des droits de l'homme et constitueront au contraire de sérieuses menaces pour les principes humains. Plus loin dans ses propos, le président iranien a rappelé que l'Iran a toujours soutenu la stabilité, la sécurité et le développement de la région et estime que la sécurité et les progrès régionaux sont étroitement liés à la stabilité de l'Iran. Le soutien de l'Iran à la nation palestinienne et sa cause légitime sont indéfectibles. Le régime d'occupation de Tel Aviv est le principal responsable du conflit israélo-palestinien qui dure depuis des décennies dans la région de l'Asie occidentale.
Voilà, nous sommes de retour sur le plateau. Nous avons deux invités d'honneur. Il s'agit d'Imadeddine Amrouni, expert des questions politiques, qui est avec nous par Skype depuis Paris. Également, nous sommes avec Madame le docteur Rada Oubala, géopoliticienne à l'Université islamique du Liban. Je vous dis bonjour également à Monsieur Amrouni et Rada Oubala. Monsieur Amrouni, si vous voulez bien, on commence avec vous en ce qui concerne 44 ans de victoire de révolution islamique malgré toutes les émeutes, les pressions, les complots. L'Iran a traversé récemment une période difficile d'émeutes engendrées par l'Occident. Bien sûr, il y a des manifestations des Iraniens, mais ces émeutes ont été en fait engendrées par l'Occident. Donc, dans un premier temps, comment interprétez-vous cette union et aussi ces 44 ans de révolution?
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. D'abord, permettez-moi de présenter mes meilleures salutations, félicitations pour le peuple iranien, pour le but suprême de la révolution islamique et pour cette nouvelle génération de la révolution islamique et iranienne. Vous savez, le 11 février 1979, c'était le premier jour de l'indépendance de l'Iran. C'était la fin de la tyrannie et le début de la réalisation de la volonté populaire. La révolution islamique iranienne, c'est une révolution d'abord du peuple iranien. Et donc, on a vu pendant ces quatre décennies, à chaque fois qu'il y a une pression, à chaque fois il y a la guerre, il y a eu la guerre pendant 8 ans, le peuple iranien, il a donné ses enfants, ses meilleurs savants pour l'indépendance de l'Iran, contre l'invasion irakienne, mais aussi américaine. Après, c'était les embargos, les sanctions. Donc, à chaque fois, à chaque étape, on voit que le peuple iranien, il est prêt à sacrifier, à donner des sacrifices. Et c'est ça, le premier leçon qu'on a de cette révolution, c'est que le peuple garde de l'espérance. C'est-à-dire, malgré tous les problèmes, la République islamique d'Iran, elle n'est pas parfaite, mais le peuple iranien, il soutient le gouvernement islamique. Et c'est ça, la force et le maintien de la révolution islamique en Iran et ailleurs. Donc bravo, bravo pour ce peuple. Nos salutations pour les familles des martyrs de la révolution islamique iranienne, parce que sans ces familles-là, la révolution islamique n'aura pas pu réaliser toutes ses victoires, la victoire militaire, la victoire sociale, la victoire scientifique, la victoire culturelle, et d'abord et surtout la victoire de la dignité populaire. C'est-à-dire, ce peuple iranien, il a une dignité et il défend sa dignité. On l'a vu aujourd'hui, des millions d'Iraniens dans toutes les grandes villes iraniennes, elles sortent avec les drapeaux iraniens, avec les photos de l'imam Khamenei et l'imam Khomeini. Ça montre le lien entre le peuple et le guide, le lien entre le peuple et son élite révolutionnaire. Et ça, il n'y a pas d'autre peuple. En vérité, on voit beaucoup entre parenthèses, des révolutions dans le monde, mais au bout de quelques années, les Américains arrivent à récupérer toutes ces révolutions. On l'a vu dans le monde arabe, en 2011, la population arabe, elle a essayé de se révolter, d'avoir leur indépendance, mais malheureusement, l'élite de ce monde arabe, c'est une élite qui n'est pas à la même hauteur de l'élite iranienne, qui n'est pas à la même hauteur des sacrifices du peuple iranien. Et donc, le résultat d'aujourd'hui, on dit bravo au peuple iranien.
Merci, Monsieur Amrouni. Restez en ligne, s'il vous plaît. Alors, Madame Radaoubala, j'espère que vous allez bien et merci de nous avoir accordé votre temps. Pour vous, que signifient ces 44 ans de résistance, d'union du peuple iranien, malgré toutes les pressions, malgré toutes les sanctions et les complots perpétrés contre la nation iranienne?
Oui, alors bonjour à vous et à votre invité. Et bien entendu, on ne peut pas ne pas s'incliner pour face à cette révolution qui se poursuit toujours. Bon, moi je vais parler en termes géopolitiques, ok. Plusieurs questions, et là vous allez me permettre de me donner un petit peu le temps, c'est-à-dire je vais parler en termes occidentaux. Loin de mon affection vis-à-vis de cette révolution et de ce qu'elle représente par rapport au monde islamo-arabe. Une révolution, c'est d'abord un changement brusque et violent dans la structure politique et sociale d'un État. Elle se produit quand un groupe se révolte contre les autorités en place, prend le pouvoir et réussit à le garder. Les principes de la révolution, n'importe quelle révolution, même au niveau de la Révolution française, qui, il faut le dire, on peut être contre la France, on peut être contre la politique française, on peut être contre la révolution iranienne, la révolution de Che Guevara, etc. Mais toutes les révolutions comportent d'une certaine manière des titres qui sont en relation avec l'égalité des citoyens devant la loi, les libertés fondamentales, la souveraineté de la nation, etc. etc. Donc, la différence entre une révolte et une révolution, et c'est ça qui est important, la révolution iranienne n'est pas une révolte, puisqu'une révolte, elle est viscérale, elle est immédiate. Donc si on veut comparer la révolution iranienne avec ce qu'on a appelé le printemps arabe, c'est totalement différent. Okay ? Deuxièmement, dans une révolution, qui est l'acteur essentiel, c'est le peuple. Avec la révolution, le peuple acquiert des droits politiques. Et les sujets deviennent aussi des citoyens. Donc, ils deviennent membres d'une nation qui est détentrice d'une souveraineté. Or, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a un avant et après la révolution iranienne dans les relations internationales. La révolution islamique a en effet bouleversé les relations internationales en rompant sans concession avec un passé impérial qui était placé sous la tutelle américaine, d'abord en soutenant la cause palestinienne contre l'entité sioniste, en affirmant son indépendance et son projet révolutionnaire de libérer tous les musulmans des despotes qui les gouvernaient. Donc, la révolution de 79 s'inscrit dans une époque qui était dominée, il ne faut pas oublier, par la guerre froide, donc par une lutte contre l'impérialisme américain et l'émergence des pays du tiers-monde. Il n'y avait pas encore une forme d'axe de la résistance, ce qu'on appelle aujourd'hui. L'une des conséquences géopolitiques, si on veut traduire quelles sont sur le terrain une victoire au niveau international ou régional de la révolution de 1979, c'est le fait qu'il y a eu un axe de la résistance islamique. Donc, l'émergence des pays du tiers-monde, des réalités politiques que l'on retrouve dans la devise du nouveau régime.
Madame Oubala, je pense que la connexion a été coupée. Est-ce que vous m'entendez? Alors, je pense que la connexion a été coupée avec Madame Oubala en attendant que mes collègues rétablissent la connexion. Monsieur Amrouni, je m'adresse à vous. Et à votre avis, en fait, ce message dont vous avez évoqué également, mais aussi Madame Oubala, que le peuple iranien a fait passer à l'Occident à travers sa présence aux marches du 22 Bahman, aujourd'hui de la révolution islamique, de l'anniversaire de la révolution islamique, Les jours à venir, les mois à venir, la perspective des évolutions, à quoi devrait-on s'attendre en ce qui concerne les réactions de l'Occident? Est-ce qu'on pourrait s'attendre à plus de pression parce qu'il y aura peut-être la panique au sein de l'axe américain et occidental?
Vous savez, cette révolution, elle a montré, comme on a dit tout à l'heure, qu'à chaque fois qu'il y a un plan de déstabilisation, la révolution islamique en Iran, le gouvernement islamique, les responsables, il faut saluer tous les responsables iraniens, que ce soit les hauts responsables ou les responsables dans les villes, dans les mairies, dans certaines entreprises, tout cet effort très important, très intense, c'est-à-dire il faut avancer, en même temps supporter la pression. Et donc, ils ont acquis cette expérience, c'est une expérience unique.
Oui, allô.
Et maintenant, on voit que la Russie, elle profite de l'expérience iranienne. Donc, la résistance à l'intérieur même de l'Iran, elle est très importante à faire fléchir si vous voulez, tous les plans occidentaux. Et donc, on voit déjà que les États-Unis, la Grande-Bretagne, même la France, l'Allemagne, commencent à s'afficher, commencent à changer, si vous voulez, d'optique et de tactique, et peut-être revenir à la négociation dans le cadre de l'accord nucléaire iranien. Et donc, à chaque fois que le peuple résiste, à chaque fois que les responsables iraniens montrent leur solidarité, montrent leur force et leur volonté, et donc au prix fort, bien sûr, il faut le dire, au prix fort de beaucoup de sacrifices, et donc cette révolution, elle n'a pas peur de donner des sacrifices, elle avance au niveau géopolitique, elle a de la force et de l'influence, ce n'est pas simplement dans la région du Moyen-Orient, mais c'est une force au niveau international. Aujourd'hui, la République islamique d'Iran est membre actif du changement du système mondial. Donc, c'est très important dans l'avenir de compter avec l'Iran. C'est-à-dire, dans l'avenir, l'Iran a son mot à dire dans la région et dans le monde.
Merci, merci, Monsieur Amrouni. Madame Oubala, est-ce que vous êtes là?
Oui, je suis là.
Très bien, merci beaucoup. On vous écoute. La connexion a été coupée, donc on vous écoute la suite de votre analyse.
Oui, alors j'étais en train de dire que justement la révolution de 1979 s'inscrit dans une époque qui était dominée par la guerre froide et par une lutte contre l'impérialisme américain. Et avec aussi, c'est une époque qui était dominée par l'émergence de pays du tiers-monde. Ce qu'il faut souligner, c'est que la devise ce qu'on appelle le nouveau régime islamique, indépendance, liberté, république islamique, chaque terme a sa place et définit chacun l'un des trois cercles de la géopolitique iranienne. Les 15 pays frontaliers à l'Iran, le cercle des 15 pays frontaliers donne la priorité à l'indépendance, au nationalisme et au territoire. Celui de l'islam recoupe en partie le cercle précédent, c'est-à-dire concerne le monde musulman, qui est un espace culturel, idéologique et régional qui est beaucoup plus vaste. Ce qu'il faut souligner dans cette révolution, c'est que, regardez le terme, observez bien, là je donne une analyse à propos du terme. On appelle la République islamique de l'Iran. Autrement dit, quand on dit le terme république, qui est un terme qui a été inventé par la Révolution française, dont on parle jusqu'à aujourd'hui, ok ? République, ça veut dire le peuple. Et quand j'ai fait mon introduction, quand j'ai parlé que qui est l'acteur essentiel d'une révolution, c'est le peuple, puisque le peuple acquiert des droits politiques. Le peuple devient un citoyen, des sujets qui sont membres d'une nation qui est détentrice de souveraineté. D'accord ? Donc, quand on parle d'un régime islamique, comme par exemple la monarchie de l'Arabie Saoudite, c'est un régime, c'est une monarchie, il n'y a pas de droit. Mais quand on est en train, c'est là qui est très important, quand on est en train de lier le terme islam et le terme république, qui dans la révolution française et dans la pensée de tout l'Occident ne concorde pas. C'est-à-dire pour eux, islam ne peut pas être synonyme des droits des peuples. Donc on ne peut pas lier le terme république avec le terme islam. Or, qu'a fait la révolution islamique ? Elle a bouleversé le champ des notions géopolitiques dans la sociologie politique de Max Weber et de tous les grands penseurs politiques en Occident. Elle les a complètement bouleversés. Donc, il faut faire très attention. C'est une révolution intellectuelle, politique et géopolitique que la révolution islamique est en train de faire jusqu'à aujourd'hui. Et c'est là le danger que représente la révolution islamique par rapport à l'Occident. C'est non, pas seulement ses exploits militaires, pas seulement le fait qu'elle peut être source d'inspiration, parce qu'attention, la révolution islamique n'a jamais voulu être, elle n'a pas besoin d'exporter. Une révolution, par définition, n'est pas exportable. Une révolution peut être une source d'inspiration. Donc là aussi, quand l'Occident est en train d'accuser la révolution islamique de vouloir exporter, mais c'est contraire justement à la définition qu'il donne à la révolution. Donc, la révolution iranienne de 1979, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a réussi à prouver, contrairement à tout ce que tente de faire l'Occident concernant de diffamer ou de vider l'islam de son sens politique, c'est que qui dit islam dit le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc oui, quand on parle république, Islam, la République islamique de l'Iran, c'est la République aussi, il y a la République du Liban, il y a la République française, donc le terme République avec le terme Islam, c'est la plus grande victoire que la révolution de 1979 a inscrite au 20e et au 21e siècle. C'est ça qu'il faut retenir. Mmh.
Merci, Madame Oubala, à votre avis. Donc, vous avez un regard géopolitique aux choses en ce qui concerne les évolutions de la région, les avancées de l'axe de la résistance, de l'Iran, de ses alliés, de ce rapprochement, de ces rapprochements, de ces renforcements de liens et de l'affaiblissement des positions américo-israéliens dans la région. À quoi devrait-on s'attendre dans les mois, voire les années à venir ?
Malheureusement, je vais être un petit peu pessimiste parce que là aussi, je me pose par rapport, je mets une carte géopolitique devant moi et je constate que la représentation géopolitique, quand je parle de représentation géopolitique de chacun des États, c'est-à-dire que ce soit de la République islamique de l'Iran, de l'axe de la résistance, de la France, de l'Union européenne, des États-Unis, elle est très divergente. Par rapport aux États-Unis, quand je dis représentation géopolitique, c'est-à-dire leur vision de la gestion du monde selon leurs intérêts, elle est totalement différente. La vision de gestion du monde, que ce soit de la Chine ou de la Russie, elle est multilatérale, premièrement, donc, et elle doit prendre en compte les intérêts de chacun des pays. Idem par rapport à la République islamique de l'Iran, qui en plus ajoute quelque chose, c'est qu'il est du devoir des États de venir en aide ou de l'apporter de l'aide contre les peuples opprimés, quelle que soit leur religion, quel que soit leur régime, etc. En premier lieu, bien entendu, la cause palestinienne. Par rapport, au contraire, aux États-Unis, leur vision de la gestion du monde est une vision unilatérale. Preuve à l'appui, les sanctions qui sont en train de, justement, qui n'ont rien à voir avec l'action coercitive que peut faire le Conseil de sécurité en utilisant justement des sanctions pour réprimer ou empêcher une guerre, là ça n'a rien à voir. Ils sont en train d'utiliser des sanctions contre tout pays qui tente de s'opposer à l'hégémonie des États-Unis, que ce soit une hégémonie économique, comme c'est le cas par exemple de la Chine, ou que ce soit sur le terrain, que ce soit par exemple avec la République islamique de l'Iran ou par rapport à la Russie. Et là, malheureusement, l'Union européenne, qui a toujours dans son inconscient des peuples, ou plutôt dans l'inconscient de ses gouvernants, cette tentation d'être impérialiste, malheureusement également, elle est en train d'imposer, ou plutôt, elle n'a plus cette vision d'être libre ou de pouvoir défendre les droits des peuples de disposer d'eux-mêmes, comme c'était le cas dans le début de leur révolution. Et donc, on a deux visions qui sont totalement très contradictoires. Soit les deux vont négocier, et je doute fort que cela puisse se passer, soit au contraire, nous allons vers une situation explosive.
Merci pour vos
explications. Attention, une situation explosive qui ne sera jamais, et là c'est vraiment, je souligne en rouge, provoquée par l'axe de la résistance, parce que c'est justement contraire à leurs principes religieux, que ce soit pour la République islamique de l'Iran, pour le Hezbollah. Et si on veut parler de la République de la Syrie, qui n'est pas islamique, c'est contraire justement à tous les principes du parti Baas.
Merci pour vos explications, Rada Oubala. Monsieur Amrouni, nous avons près de deux minutes devant nous. Le mot de la fin et la conclusion est à vous.
Vous savez, on a parlé longuement du peuple iranien. Et la richesse de la révolution islamique, c'est le peuple iranien. Donc il faut que la priorité de tous les gouvernements qui vont venir, et surtout le gouvernement de M. Raisi, donner la priorité pour le peuple iranien, c'est-à-dire la priorité de la justice sociale. Il faut accentuer la justice sociale. Malheureusement, les dernières décennies, cette justice sociale, il y a eu un déséquilibre à l'intérieur même de la société iranienne. Deuxièmement, il faut écouter la jeunesse iranienne. Il faut changer, c'est-à-dire la terminologie de cette révolution et donner de l'espace à la femme iranienne et donner de l'espace à cette nouvelle génération iranienne. Et donc le peuple iranien doit vivre dans la justice de la République islamique iranienne, comme votre invité de Beyrouth l'a bien dit, c'est-à-dire on est en République, le peuple, et on est islamique. Donc l'islam, c'est la justice sociale. Deuxièmement, pour avoir cette justice sociale, il faut avoir des réformes économiques. C'est-à-dire il faut s'intéresser à l'économie. Et même le guide suprême de la révolution islamique, il a plusieurs fois annoncé l'économie nationale, cette économie de résistance. Il faut établir des entreprises, il faut amener des investissements et donc il faut élargir diplomatiquement la relation diplomatique, économique et culturelle avec les populations autour de l'Iran, c'est-à-dire dans la région du Moyen-Orient, mais surtout avec l'Afrique et l'Amérique latine.
Je reviens une seconde.
Oui, Madame Oubala, on vous écoute.
Je ne suis pas d'accord avec votre invité concernant l'espace qui doit être donné à la femme. Je pense que la République islamique de l'Iran, je sais de quoi je parle, puisque moi-même qui vis soi-disant dans un pays, le Liban, et je suis franco-libanaise, soi-disant on est un pays très ouvert, etc., etc., je peux vous dire que la femme n'a aucun droit au niveau, pas aucun droit, mais elle n'a pas, on lui donne pas le droit de participer à la vie politique. Elle doit être soit la veuve d'un politicien, soit le frère, soit la sœur d'un politicien pour pouvoir accéder au Parlement ou avoir une voix. Par contre, par rapport à la République islamique de l'Iran, le rôle de la femme, et là je reviens à un discours de l'imam Khomeini qui a bien souligné que sans les femmes, la révolution islamique n'aurait jamais eu lieu. En fait, ce sont les femmes qui sont descendues à la rue, puis ensuite les hommes ont suivi les femmes. Donc la révolution islamique a d'abord été conduite par des femmes. Idem pour la révolution française où aussi, mm-hmm. Certains disent que la femme a joué un rôle. Sans doute parce que la femme a des sentiments et donc elle est assez enflammée. Mais l'espace dont parle votre invité, avec tous mes respects pour tous ces propos dont je suis d'accord, il est déjà accordé par rapport à la République islamique de l'Iran. Maintenant, si on veut parler par rapport aux voix, c'est une autre affaire. Là, on est en train de parler législation. Ça n'a rien à voir avec l'analyse
Merci
géopolitique
beaucoup.
De la révolution islamique. Oui. Voilà.
Merci beaucoup à toutes et à tous de nous avoir suivis jusqu'à la fin de ce débat. Je vous dis au revoir et à très bientôt.
Afrique économique.
Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition d'Afrique économie, une émission dans laquelle nous essayons de réviser en bref les informations les plus importantes en matière économiques qui se sont passées durant la semaine passée dans le continent africain. Restez avec nous. L'institution spécialisée dans le développement des marchés financiers africains devrait agir en tant que conseiller des émeutes potentielles dans des pays tels que la Tanzanie, la Zambie, le Nigeria et le Maroc. FST Africa, l'agence de développement financée par le gouvernement britannique, accompagnera des émetteurs potentiels d'obligations vertes dans plusieurs pays africains pour mobiliser une enveloppe totale de 400 millions de dollars en 2023, a rapporté Bloomberg ce vendredi 10 février, citant un dirigeant de l'institution. Spécialisé dans le développement des marchés financiers en Afrique, FST Africa jouera le rôle de conseiller de ses émetteurs dans des pays tels que la Tanzanie, la Zambie, le Nigeria et le Maroc. Nous espérons le lancement des premières émissions d'obligations vertes au cours du prochain trimestre, a déclaré à Bloomberg le directeur des marchés des capitaux à FST Africa, Evan Osano, indiquant que ces émissions serviront à financer des projets de lutte contre le changement climatique. Bien qu'il ne soit responsable que de moins de 4% des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale, le continent africain subit de plein fouet les effets néfastes du réchauffement de la planète.
L'Afrique ne reçoit cependant que 30 milliards de dollars de financement climatique en moyenne par an, soit 10 fois moins que les 300 milliards de dollars dont la région a besoin chaque année. De plus, les financements provenant du secteur privé ne constituent qu'une petite partie des financements climatiques destinés à l'Afrique. 13% seulement des financements climatiques dont bénéficie l'Afrique proviennent de sources privées contre 30 à 50% dans d'autres régions du monde. Depuis l'année dernière, l'Afrique du Sud vit l'une de ses pires crises de l'électricité. Le mois de septembre dernier a été d'ailleurs le pire de l'histoire du pays en termes de durée de délestage. Lors de son 7e discours sur l'état de la nation, le mardi 7 février, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé qu'il allait nommer un ministre de l'électricité. Afin de coordonner la réponse à la crise de l'électricité que traverse le pays depuis des mois. Ramaphosa a reconnu que le pays était en proie à une profonde crise énergétique qui non seulement entravait la reprise économique après la crise sanitaire de la COVID-19, mais menaçait également la stabilité sociale et la sécurité alimentaire. Nous déclarons donc un état de catastrophe nationale pour répondre à la crise de l'électricité et à ses effets, a déclaré M. Ramaphosa avant d'ajouter. Pour faire face de manière plus efficace et urgente aux défis auxquels nous sommes confrontés, je vais nommer un ministre de l'électricité à la présidence qui assumera l'entière responsabilité de la supervision de tous les aspects de la réponse à la crise de l'électricité, y compris le travail du Comité national de crise énergétique. Le nouveau ministre aura donc pour principale tâche de mettre fin au délestage et veiller à ce que le plan d'action énergétique annoncé en juillet dernier soit mis en œuvre. Il bénéficiera d'une plus grande marge de manœuvre étant donné l'état de catastrophe nationale déclaré qui facilitera notamment la mise en œuvre des mesures pratiques nécessaires pour soutenir les entreprises du secteur énergétique. L'économie du pays serait de plus en plus vulnérable à une récession au cours des 12 prochains mois. Ainsi, selon une enquête de Bloomberg réalisée cette semaine, la probabilité d'une récession s'élève désormais à 68% contre 40% en janvier. La problématique de la cherté du prix de diesel a été au cours de ces dernières années l'un des plus grands casse-têtes pour le gouvernement. Peter Chipwe Kapala, ministre de l'Énergie, a annoncé que la révision de l'oléoduc Tazama pour le convertir du transport de pétrole brut à celui du diesel progresse comme prévu. L'oléoduc Tazama, qui part de la Tanzanie à Douala, côté Zambie, a une capacité de transport de 1,1 million de tonnes par an et a été construit en 1968. Le dirigeant a souligné l'engagement du gouvernement à garantir un approvisionnement durable en carburant, un aspect vital de la croissance économique du pays. Pour y parvenir, le gouvernement réhabilite et reconfigure l'oléoduc pour transporter du diesel. Le processus de transformation a commencé le 24 janvier 2023 et le nettoyage du pipeline et des réservoirs de stockage est déjà en cours. L'achèvement de la transformation est prévu pour le premier trimestre de 2023. Le pipeline sera capable de fournir 90 millions de litres de diesel par mois. Selon le gouvernement, cet approvisionnement constant en diesel permettra de réduire les coûts de transport de 60%, ce qui se traduira par une baisse du prix à la pompe. Le ministre Kapala a également déclaré que le gouvernement continuerait de mettre en œuvre des mesures visant à stabiliser et à réduire le coût des produits pétroliers du pays. Le Rwanda n'est pas aussi riche en ressources minérales que son voisin la RDC. À l'instar de l'Ouganda, le pays mise donc sur la transformation locale de minéraux provenant en partie de la RDC et qui sont réexportés par la suite. Le Rwanda a exporté pour 683 millions de dollars de minéraux entre janvier et novembre 2022, en hausse de 52% par rapport à la même période en 2021. C'est ce que relève le média local des New Times qui, s'appuyant sur les données de la Banque nationale du Rwanda et du ministère des Finances, précise que la recette générée par les exportations de minerais 3T ont augmenté de 42% sur cette période pour atteindre 186,3 millions de dollars. Malgré cette forte croissance, il faut noter que l'or reste le principal contributeur aux recettes d'exportation du secteur minier avec des revenus de 488 millions de dollars entre janvier et novembre 2022, soit plus de 70% du total. Il s'agit par ailleurs d'une augmentation de 55% en glissement annuel, soutenu principalement par l'augmentation des quantités exportées, en l'occurrence 8 tonnes d'or en 2022 contre seulement 2 tonnes l'année précédente. Le ministère des Finances attribue cette hausse à la stratégie d'importation puis de réexportation d'or pratiquée au Rwanda comme chez le voisin ougandais. S'appuyant sur un réseau de plusieurs raffineries, le pays a en effet réussi en quelques années à faire de l'or son premier produit d'exportation, en valeur devant le café. Selon l'ONG américaine Global Witness, les minerais 3T sont aussi concernés par ladite stratégie, puisqu'elle a estimé dans un rapport publié en 2022 que 90% des minerais 3T exportés par le Rwanda sont introduits illégalement depuis la RDC.